Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Ici à Washington, le président Joe Biden a dressé mercredi face au Congrès le tableau d'une Amérique de nouveau debout après une série de redoutables crises et affiché sa volonté réformatrice, appelant les plus riches à payer leur juste part. À la veille du cap symbolique de ses 100 jours au pouvoir, M. Biden a décliné son projet pour les familles américaines d'un montant total de près de 2 milliards de dollars. Il a aussi abordé des sujets de politique étrangère. Michel Joseph nous fera un compte-rendu dans quelques instants. 6 personnes sont mortes dans les manifestations contre la junte mardi au Tchad, a annoncé mercredi soir le Conseil militaire de transition dans un communiqué transmis à l'AFP et signé par son porte-parole Azem Bermandoa Aguna. Les autorités judiciaires avaient évoqué mardi un bilan de 5 morts, dont 4 dans la capitale N'Djamena et 1 à Mundu, deuxième ville du pays. La CTDDH, une ONG nationale de défense des droits de l'homme, avance, elle, un bilan de 13 morts et d'une soixantaine de blessés. Nous retrouverons en seconde partie de cette édition notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar. Ici à Washington, notre correspondante au département d'État a obtenu cette réaction d'un porte-parole au sujet de la rencontre entre le chargé d'affaires américain David Gilmour et l'opposant tchadien Succès Masra. Selon ce porte-parole, l'ambassade des États-Unis prend langue avec toutes les parties de la société tchadienne et les États-Unis appuient une transition pacifique du pouvoir dirigé par des civils vers un gouvernement démocratique. Ils ne soutiennent ni n'entérinent aucun groupe ou acteur et soutiennent le processus démocratique lui-même, exhortant toutes les parties à y participer de manière pacifique. Au Burkina Faso, les attaques meurtrières menées dans la nuit de lundi à mardi contre des villages de la commune de Saitenga, dans le nord du Burkina Faso, ont fait 18 morts, a annoncé mercredi le gouverneur de la région du Sahel, le colonel-major Salfo Kabore, évoquant un nouveau bilan. Le précédent parlait d'une dizaine de morts. L'attaque a entraîné un déplacement massif des populations des localités de la zone en direction du chef-lieu de la commune, selon le gouverneur. Oumarou Dogari Moumouni, un proche de l'opposant et ancien premier ministre Ama Amadou, a été élu mercredi maire de la ville de Niamey, a indiqué le gouvernorat de Niamey. Il avait occupé ce poste en 2011 avant d'être limogé en 2013 par un conseil des ministres pour notamment, je cite, « mauvaise gestion ». Au Cap-Vert, le MPD, parti de centre-droit du premier ministre sortant Ulysses Correa e Silva, au pouvoir depuis 5 ans, reste majoritaire à l'Assemblée nationale avec 38 de ses 72 sièges à l'issue des législatives du 18 avril, dont les résultats complets ont été publiés mercredi par la commission électorale. Une Rwandaise expulsée des États-Unis au début du mois et accusée de crimes pendant le génocide de 1994 au Rwanda, a comparu mercredi devant un tribunal de Kigali. Rosine Munezero nous donnera les détails. La Banque mondiale a accordé mercredi 100 millions de dollars pour un projet de relance d'urgence dans le nord du Mozambique, où une insurrection islamiste a déplacé des centaines de milliers d'habitants. Ce financement fait partie d'un projet de 700 millions de dollars sur 3 ans. L'Inde a enregistré jeudi 3645 nouveaux morts du Covid-19, soit 350 de plus que la veille, un nouveau record pour ce pays débordé par la flambée épidémique, avec un total de 204 832 morts Washington a annoncé mercredi l'envoi en urgence de plus de 100 millions de dollars d'équipements de lutte contre le coronavirus en Inde. L'astronaute américain Michael Collins, membre d'Apollo 11, la première mission habitée vers la Lune, est décédé mercredi d'un cancer à l'âge de 90 ans. Et la Chine a lancé ce jeudi le premier des trois éléments de sa station spatiale, un projet ambitieux pour Pékin qui devrait lui permettre à terme d'avoir des astronautes en permanence. La suite de nos informations. Ici à Washington, le président Joe Biden a vanté mercredi soir face au Congrès les avancées de son début de mandat, dressant le tableau d'une Amérique qui a surmonté une série de crises sans précédent et a répondu avec détermination à la pandémie de COVID-19. Le point avec Michel Joseph.
À la veille du cap symbolique de ses 100 jours au pouvoir, le chef de l'exécutif américain a décliné son projet pour les familles américaines d'un montant total de près de 2000 milliards de dollars. Décrivant un pays en crise à son arrivée à la Maison-Blanche, crise sanitaire et économique, mais aussi l'assaut contre le Capitole du 6 janvier, la pire attaque contre notre démocratie depuis la guerre de sécession, Joe Biden a affiché sa confiance.
Now, after just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
Après 100 jours, je peux le dire au pays, l'Amérique va de nouveau de l'avant, a-t-il lancé. Le président démocrate s'est posé en défenseur de la classe moyenne en vantant un gigantesque plan d'investissement visant à créer des millions d'emplois pour les Américains qui se sentent tenus à l'écart. Le président américain Joe Biden a appelé à augmenter les contributions fiscales des entreprises et des Américains les plus riches pour financer son plan d'aide aux familles sans augmenter le déficit.
But it's time for corporate America.
Il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part, a lancé le démocrate. Avec une promesse martelée sur tous les tons, aucun Américain gagnant moins de 400 000 dollars par an ne verra ses impôts augmenter. Cette allocution marque aussi le début d'un âpre combat au Congrès. Si son plan de soutien à l'économie de 1900 milliards de dollars a franchi l'obstacle sans véritable difficulté, les discussions sur ces gigantesques plans d'investissement dans les infrastructures et l'éducation s'annoncent beaucoup plus houleuses. À la tribune, le président démocrate a vanté les progrès extraordinaires réalisés aux États-Unis ces derniers mois, face au COVID-19, avec en particulier la fulgurante accélération du rythme de vaccination. Revenant sur un autre sujet de société brûlant, le président a appelé le Sénat à adopter dès le mois de mai un vaste projet de réforme de la police à l'occasion de l'anniversaire de la mort de l'Africain-Américain George Floyd sous le genou d'un policier blanc. Sur le front diplomatique, Joe Biden a martelé sa fermeté vis-à-vis de Pékin et de Moscou, tout en se disant prêt au dialogue. Assurant ne pas chercher le conflit avec la Chine, il a insisté sur le fait qu'il était prêt à défendre les intérêts américains dans tous les domaines. Seules quelques 200 personnes, contre plus de 1600 habituellement, se sont retrouvés dans la prestigieuse enceinte de la Chambre des représentants pour assister au discours de M. Biden. Et les élus ont été priés cette année de présenter une liste d'invités virtuels à cause du COVID-19. Pour la première fois dans l'histoire, deux femmes avaient pris place derrière le président dans le champ des caméras, Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre, et Kamala Harris, devenue en janvier la première femme à accéder à la vice-présidence. Tim Scott, le seul sénateur républicain noir, a donné la réponse de son parti.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une Rwandaise accusée de crimes pendant le génocide de 1994 contre les Tutsis a comparu mercredi devant un tribunal de Kigali. C'est après avoir été expulsé des États-Unis au début du mois. Le point avec Rosine Munezero.
Béatrice Munyenyezi, 51 ans, a été arrêtée le 17 avril à son arrivée dans la capitale rwandaise. Elle avait déjà purgé une peine de 10 ans de prison aux États-Unis pour avoir menti sur son implication dans le génocide, ce qui lui avait initialement permis d'obtenir la nationalité américaine. Sa comparution a été brève. Son avocat a obtenu un ajournement au 5 mai pour avoir plus de temps pour préparer sa défense. Elle est visée par la justice rwandaise de 7 chefs d'accusation liés au génocide. Selon un article de 2015 du Boston Magazine, Béatrice Munyenyezi vivait tranquillement dans un quartier ouvrier du New Hampshire aux États-Unis avec ses 3 enfants jusqu'à ce qu'un agent fédéral commence à scruter son passé. Les investigations ont montré que celle qui était surnommée la commandante supervisait un barrage routier où elle identifiait les Tutsis et les faisait massacrer. En 2013, son mari Arsène Shalom Naobali a été condamné à 47 ans de prison par le TPIR d'Arusha pour son rôle dans la milice Inherahamwe.
En Somalie, le président Mohamed Abdullahi Mohamed va demander samedi l'approbation du Parlement sur le processus électoral. Il semble avoir abandonné la prolongation de son mandat qui a déclenché un regain de violence dans le pays. Le point avec Marius Mohunga.
Hier, le Premier ministre Mohamed Hussein Roblé a appelé les personnes qui ont fui leur maison à revenir et a ordonné aux forces armées de faciliter leur retour en toute sécurité. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, entre 60 000 et 100 000 personnes ont fui leur domicile à Mogadiscio. Les tensions se sont accrues depuis que le mandat du chef de l'État a expiré le 8 février sans la tenue des élections. Le 12 avril, le Parlement a voté une loi prolongeant des 2 ans le mandat présidentiel, entraînant des affrontements dimanche qui ont fait 3 morts.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Cameroun, l'université de Ngaoundéré a présenté de nouvelles bières fabriquées par ses étudiants en biochimie. Ces bières, appelées Mbong, le nom local du manioc, et Sambé pour le mil, sont également mises en bouteille localement. L'université espère que ces innovations permettront aux brasseries de moins recourir aux importations de la bière. La première société de capital investissement dédiée à des marques de luxe africaines vient d'être lancée. Birignan veut identifier, investir et accompagner des sociétés de luxe ou haut de gamme. Selon Ecofin, les financements peuvent atteindre 3 millions de dollars pour des entreprises en phase de croissance. Birignan revendique déjà 4 marques ivoiriennes et ghanéennes dans les secteurs de la mode et des cosmétiques. La Banque centrale américaine a salué l'amélioration de l'activité économique et de l'emploi hier à l'issue de la réunion de son comité monétaire, relevant cependant que la pandémie pose toujours des risques pour les perspectives économiques. La Banque centrale fait état de l'inflation, mais la voit toujours comme temporaire. La crainte d'une hausse des prix avait agité les marchés en début d'année, mais semble maintenant se dissiper.
Merci Claire, et maintenant les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous, on connaît tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF. La 6e et dernière journée de la phase de poule s'est disputée hier. 6 qualifiés connus avant cette dernière journée. Le suspense était au niveau du groupe A où tous les clubs pouvaient se qualifier. Finalement, ce sont les Nigériens d'Enyimba et les Sud-Africains d'Orlando Pirates qui ont arraché les 2 derniers tickets qualificatifs pour les quarts. Enyimba a battu Orlando 1-0 pour partager la première place avec les Sud-Africains. En plus des 2 clubs, le Raja Casablanca, la JS Kabylie, Coton Sport de Garoua, Jaraf de Dakar, le CS Sfaxien et Pyramide FC sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe CAF. En Ligue Europa ce soir, Arsenal, Villarreal et la Roma jouent gros lors des demi-finales aller. 10e de la Première Ligue, les Gunners n'ont comme seul espoir pour retrouver la Ligue des Champions, où ils n'ont plus joué depuis la saison 2016-2017, que de remporter la Ligue Europa lors de la finale le 26 mai en Pologne, mais il leur faudra pour cela contourner l'écueil de Villarreal, le club de leur ancien entraîneur Unai Emery. Ce dernier connaît bien la Ligue Europa pour l'avoir remporté 3 fois avec Séville entre 2014 et 2016. Et le parcours de Villarreal y est cette année remarquable avec 11 victoires et 1 nul sur 12 matchs. Dans l'autre demi-finale aller face à la Roma, Manchester United aura moins de pression, actuel 2e de la Première Ligue. Les Red Devils sont quasiment certains de revenir en Ligue des Champions l'an prochain. Pour la Roma, une victoire lui permettrait de jouer sa troisième finale européenne après la Coupe des clubs champions, actuelle Ligue des champions en 1984 et la Coupe de l'UEFA, l'ancien nom de la Ligue Europa en 1991. Et puis un match aller de la deuxième demi-finale de la Ligue des champions hier, avec un coup franc de l'Algérien Riyad Mahrez, Manchester City a dompté le Paris Saint-Germain 2-1, prenant une option sur la première finale de son histoire avant le match retour mardi. La frappe de l'international algérien a transpercé le mur adverse à la 71e pour offrir la victoire à City, alors que son capitaine Kevin De Bruyne, à la 64e, avait répondu à l'ouverture du score de Marquinhos à la 15e. Le Sénégalais Idrissa Gana Gueye, énorme ratisseur contre le Bayern Munich en quart de finale, a été exclu pour un tacle raté sur la cheville d'Ikley Gundogan à la 78e.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, au lendemain de la manifestation pacifique violemment réprimée par la police, plusieurs organisations de la société civile condamnent ce qu'elles qualifient de massacre. La CTDDH, une ONG nationale de défense des droits de l'homme, avance un bilan de 13 personnes tuées et une soixantaine de blessés. Le point avec André Kotmadjingar, notre correspondant à N'Djamena.
Nous sommes d'autant plus attristés que les forces de défense et de sécurité aient usé de violence inouïe sur des manifestants à main nue.
Maître Max Lualngar, président de la LTDH et membre de la coordination des actions citoyennes en sa qualité d'avocat au barreau du Tchad, il prévient les manipulateurs de l'histoire qui tenteraient d'imputer la responsabilité aux organisateurs de ce mouvement d'humeur. Car, dit-il, les coupables sont ceux qui tirent à balles réelles sur les manifestants. La CTDDH, une ONG nationale des droits de l'homme, a revu le bilan provisoire en hausse.
Il y a deux morts aujourd'hui. Le premier a succombé à ses blessures. Le second a été tué à Walia ce matin. Donc, nous en sommes à au moins 10 morts en 2003 à Bundu. Ce qui nous amène à 13 morts pour le moment. 76 blessés à peu près pour tout le Tchad.
Mahamad Nouri Bedou, secrétaire général de la CTDDH, pour lui, c'était une vraie massacre jamais connue, même sous le régime de Déby qui a géré le pays d'une main de fer pendant 31 ans.
Pour nous autres défenseurs des droits de l'homme, c'est l'horreur. Parce que jamais au Tchad, il y a eu cette forme de barbarie. Certes, les marches pacifiques avaient été toujours réprimées, mais ça n'a jamais atteint cette ampleur-là.
L'activiste Rassou Gagé condamne fermement l'usage excessif des armes de guerre contre les manifestants et exige la démission du Premier ministre Baïmi Padaké Albert, nommé par le CNT.
L'édifice est en train de mal démarrer puisque des militaires. C'est l'arme là achetée pour la sécurisation du peuple tchadien. Ce qu'ils font, ils ont pire que Boko Haram. Ça, c'est pas possible pour qu'on peut imaginer comme ça qu'on tue des enfants comme des oiseaux devant. Non, non, il faut que ça cesse. Et le Premier ministre, jusqu'à là, il ne s'est même pas prononcé. Ou il démissionne. C'est comme ça qu'on doit gouverner les Tchadiens dans le sang.
Le président de la coordination des actions pour la gouvernance démocratique, la justice et l'égalité sociale, Maître Douta Tolngar, tient pour responsable le président français Emmanuel Macron de ses désordres, même s'il a fait un rétropédalage.
Des morts d'hommes qui manifestaient pacifiquement, tirés à balles réelles, des blessés montrés sur les réseaux sociaux. Macron va dormir à l'aise aujourd'hui. Je crois que la transition qui devra se faire demandera un congé diplomatique avec la France pour que le Tchad se sente un État souverain pouvant traiter d'égal à égal. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous réviserons nos relations avec la France.
Pour Dida Mahamad Oumar, président de la CNDH, la Convention nationale des droits de l'homme, la responsabilité est partagée.
C'est vrai, les forces de l'ordre n'ont pas bien géré la situation, mais les manifestants eux-mêmes n'étaient pas du tout pacifiques. Donc j'en appelle à la responsabilité de toucher chacun. D'abord, aux forces de l'ordre, on n'a pas le droit de tirer sur quelqu'un à temps réel. Et les mêmes manifestants, ils n'ont pas le droit de faire descendre une femme qui est dans un bus et la tuer. Ou bien aller attaquer des stations qui appartiennent à des citoyens tchadiens. Donc, c'est vraiment regrettable. Nous condamnons cela. Et nous condamnons également le comportement de la police.
Jusque-là, les responsables de la police nationale ne communiquent pas encore sur le bilan de cette journée sanglante. André Kotmadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Au Sénégal, la police nationale a démantelé il y a quelques jours un réseau de trafiquants de faux médicaments en arrêtant un ressortissant chinois et des pharmaciens sénégalais.
ce week-end, la douane a intercepté un convoi de faux médicaments d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Des faits qui relancent le débat sur la vente et l'achat de médicaments illicites, notamment dans la rue. Les patients sont-ils conscients de la dangerosité de cette pratique? Reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
Les forces de défense et de sécurité ont de nouveau démantelé des réseaux de trafiquants de faux médicaments, une pratique combattue au Sénégal mais qui persiste malheureusement. Les consommateurs sont les plus exposés dans cette histoire. Alors, sont-ils conscients de la dangerosité de ces produits sur leur santé? Apparemment oui, dit le vieux Sambadjei.
Les médicaments de la rue sont très nocifs sur la santé. Il est impossible de savoir s'ils sont périmés ou pas, s'ils sont bons ou pas. Sincèrement, moi, j'achète mes médicaments à la pharmacie.
Mamoudou Thiam est en phase avec le vieux Sambadjei.
Un médicament doit être vendu et acheté à la pharmacie. Les médecins nous prescrivent des ordonnances pour que l'on les achète à la pharmacie, pas dans la rue. C'est mauvais pour la santé. En plus, les enfants sont les plus vulnérables.
Souvent, c'est par manque de moyens financiers que beaucoup de patients achètent les médicaments dans la rue. Là-bas, les prix sont largement moins chers, nous confie Abdoulaye Fall.
Alors donc,
Moi-même, je sensibilise souvent sur l'achat des médicaments dans la rue, mais beaucoup de gens me disent que les médicaments de la rue coûtent moins cher et sont plus accessibles. Je peux les comprendre car les gens vivent dans la précarité, donc ils sont souvent obligés d'acheter les médicaments de la rue. Pourtant, dans les pharmacies, il y a la formule générique qui est accessible à toutes les bourses.
Les experts sont unanimes. La vente de médicaments dans la rue est un réel problème de santé publique, un danger pour les patients car ces médicaments de la rue sont à l'origine de nombreuses maladies. Dr Ndiaye, médecin généraliste, affirme que pour combattre cette pratique, il faut sensibiliser les patients et sanctionner les responsables.
Il faudra donc sensibiliser par rapport au danger de ces médicaments-là, la sensibiliser par rapport à ces nouveaux cas que l'on dénombre chaque année d'insuffisance rénale, d'insuffisance hépatique, de cancer, tout ça. Et donc l'État aussi doit être interpellé par rapport à ça, parce qu'elle a aussi une responsabilité par rapport à ça. Et donc l'État aussi doit prendre son courage à bras le corps.
Ces nouvelles saisies d'avril 2020 ne sont ni des nouveautés, ni les plus impressionnantes. Entre 2019 et 2021, la douane indique avoir saisi d'importantes quantités de médicaments contrefaits d'une valeur de près de 3 milliards de francs CFA. À Dakar, Seydina Abagué pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Sahel, la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. Près de 29 millions de personnes sont victimes de l'insécurité, du changement climatique, du Covid-19 et ont urgemment besoin d'aide, selon les agences d'aide des Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernementales. Mohamed Houmfa s'est entretenu avec Tom Per Costa, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés, une des organisations venant en aide aux populations du Sahel.
Aujourd'hui, on a plus de 29 millions de Sahéliens qui ont besoin d'une aide humanitaire et de protection. Et ça représente 5 millions de plus qu'il y a seulement un an. Donc la situation s'aggrave rapidement. Et aujourd'hui, on a plus de 5 millions de déplacés qui se retrouvent dans le besoin. Donc l'augmentation de la sécurité a un impact sur les populations, mais aussi sur l'accès humanitaire des ONG et des Nations Unies. On a de plus en plus de mal sur le terrain à avoir accès aux populations qui sont dans le besoin.
Comment expliquer l'aggravation de cette crise humanitaire? Quelles en sont les causes?
Alors les causes majeures de cette situation sont multiples. L'insécurité étant le principal facteur. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis les 5 dernières années, le nombre d'attaques a été multiplié par 8 dans le Sahel et a triplé dans le bassin du lac Tchad. Mais l'insécurité n'est pas le seul critère de l'aggravation rapide de la crise humanitaire. car il y a aussi le changement climatique qui a eu un impact sur les récoltes récemment, mais aussi l'impact du Covid. L'impact socio-économique du Covid dans la région a été très fort pour des populations qui sont déjà vulnérables. La fermeture des frontières, des marchés locaux et des échanges commerciaux a créé une augmentation des prix importante. Et donc les personnes déjà modestes ou vulnérables se sont retrouvées dans une situation extrêmement difficile, en conséquence avec un nombre de personnes dans le besoin qui a augmenté.
Quels sont les efforts menés et quelles autres solutions pourraient aider à améliorer la situation ?
Les ONG et les Nations Unies font ce qu'elles peuvent pour répondre aux besoins, mais nous avons un petit peu les pieds et poings liés. D'abord pour les questions d'accès, comme je vous l'ai dit, notre accès est fortement réduit à cause de l'insécurité, mais aussi parce que la réponse humanitaire dans la région est très peu financée. Seulement 5% des 3,7 milliards de dollars demandés ont été fournis pour répondre aux besoins les plus urgents. Donc là, le financement est beaucoup trop faible, et en parallèle à cela, il faut une approche holistique. La réponse sécuritaire seulement ne suffira pas, il faut aussi une approche de développement, il faut que la présence de l'État se fasse dans ces régions extrêmement pauvres, il faut que les populations aient accès aux services sociaux de base, à l'éducation, à la santé, pour pouvoir, on va dire, endiguer ce terreau fertile qui pousse de nombreux jeunes à prendre les armes et à se battre.
Tom Per Costa, porte-parole du Conseil norvégien pour les réfugiés, une des organisations venant en aide aux populations du Sahel.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le président Joe Biden boucle ses 100 premiers jours à la tête des États-Unis. Son taux de popularité se situe à 52% selon un sondage réalisé par la chaîne ABC News et le quotidien Washington Post. Ses points forts, la lutte contre le Covid-19 et la relance de l'économie. Le sondage révèle par ailleurs que le dossier de l'immigration reste un défi pour le locataire de la Maison Blanche, sans oublier les relations tendues entre la police et les minorités. Avec nos invités, nous analyserons les 100 premiers jours de Joe Biden à la présidence ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Pendant le Ramadan, de nombreuses mosquées sont ouvertes, mais la fréquentation est limitée à cause des restrictions contre la propagation du Covid-19. Il n'y a donc aucune garantie de trouver une place pour prier. Mais de nouvelles applications téléphoniques viennent combler ce vide, comme nous l'explique Nova Poevardi dans ce reportage repris ici par Salwa Jafari.
De nombreux musulmans profitent du mois sacré pour renforcer leur lien avec leur créateur en passant de longues heures à la mosquée. Mais pour maintenir le nombre de fidèles en deçà des capacités fixées par les autorités locales en raison des restrictions liées à la pandémie, les mosquées ont dû faire preuve de créativité.
Mohamed Joban est imam à la mosquée Rahma.
Nous avons deux prières, une immédiatement après la prière d'Isha le soir et une autre vers 11h.
Les mosquées ont également adopté la technologie pour faciliter l'enregistrement en ligne. C'est le cas de la mosquée dirigée par l'imam Mohamed Joban dans l'État américain de Washington.
Nous sommes maintenant autorisés à 20% de capacité. Dieu merci, notre mosquée est assez grande, pouvant accueillir jusqu'à 1000 personnes. Maintenant, chaque prière est suivie par 200 personnes. C'est premier enregistré, premier servi.
La mosquée Ar-Rahma utilise une application appelée Smart Jama'a qui se traduit par congrégation intelligente développée par un ancien programmeur d'IBM. L'application suit la fréquentation des mosquées participantes et avertit également les utilisateurs des annulations.
Zahir Sheikh est développeur de l'application Smart Jama'a.
Nous voulions créer ces outils comme au niveau des entreprises, car ils donnent aux masses des outils entièrement gratuits, afin que nous, mosquées, nous n'ayons pas à dépenser leurs ressources.
Une autre application utilisée par les mosquées à travers les États-Unis est celle de Masjid, ou l'application Mosquée. Le Masjid et le Smart Jama'a ont été initialement développés pendant la pandémie de coronavirus pour aider à assurer la sécurité des mosquées. Aujourd'hui, elles sont utilisées pour aider à coordonner les prières nocturnes pendant le Ramadan, le Taraweh.
Khalid Mahmoud, développeur de l'application Masjid.
No registration required.
Tout le monde peut télécharger l'application et se connecter afin que vous puissiez ensuite effectuer une recherche par emplacement pour trouver votre mosquée.
Les mosquées aux États-Unis ont réussi à trouver un équilibre entre l'enthousiasme renouvelé de se rassembler pour la prière et la nécessité de garder tout le monde à l'abri du Covid.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.